These kind of things where they make man see ya. Eh bien, ce soir, un Brésil bien lancé dans la compétition, vainqueur de la Serbie par 2-0. Un doublé de Richarlison, mais une grosse inquiétude chez les Brésiliens pour Neymar, sorti sur blessure. En tout cas, les Brésiliens sont bien là. Les premiers buts aussi africains au Qatar. Alors, deux buts des Black Stars, mais le Ghana s'est incliné face au Portugal de l'éternel Cristiano Ronaldo. Avec les honneurs quand même pour le Ghana, et nous allons y revenir. Mieux que pour donc les Africains qui les ont précédés, des lions vaillants, mais finalement domptés par la Suisse et la Nati. Battu 1-0, le Cameroun pourra-t-il rebondir pour poursuivre sa marche dans cette compétition? Alors vous êtes venu de Douala pour les suivre. Bonsoir Cyril Bogico.
Bonsoir Annie, bonsoir Anou, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le responsable de la radio Balafond à Douala.
Oui, je suis le PDG du groupe Balafond Média, radio, télé et web.
On s'était déjà croisés du côté de Douala, enfin vous, avec certains de vos journalistes.
Absolument, oui. Hein.
Une belle ambiance et de belles rencontres dans cette ville-monde. Nous en parlerons où les jours de match, les supporters se croisent, se chambrent, chantent. L'Asie profite apparemment de la fête du côté du Qatar. Demain, commencera la deuxième journée de groupe. On recommence à zéro, les équipes reviennent. Les Lions de la Teranga ont la chance de se refaire une santé, la chance de remporter leur match. Ce sera face au Qatar, leur survie dans la compétition en dépend, n'est-ce pas Hervé Penaud ?
Bonjour à tout le monde, mais quel plaisir d'être avec
Bonsoir,
vous.
Hervé.
On va se régaler et j'espère bien que le Sénégal va nous régaler demain.
C'est ce qu'on attend beaucoup de lui. Deux confrères de la rédaction, il y a Timbi Ba. Bonsoir Timbi.
Bonsoir Annie et bonsoir à tous.
Merci d'être là, vous êtes venu de Dakar, vous. Oui. Vous êtes le rédacteur en chef de RFI en full day, une des langues parlées par RFI en Afrique de l'Ouest. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin.
Mais il ne parle pas full day, lui.
Nous, il apprendra aujourd'hui.
Je peux apprendre, effectivement.
Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Alors vous avez vu notamment le Ghana aujourd'hui, mais ce n'était pas donc le seul match. Radio Foot préparé avec David Finzel et Laurent Salerno. Pour ce qui est du Facebook Live, puisque vous pouvez nous regarder et même nous re-regarder au cours de la journée et quand vous voulez d'ailleurs sur notre page Facebook, il y a Léo Bernard, Cyril Etienne et Benjamin Availlou. Radio Foot, c'est parti.
Para Neymar, matou na coxa, colocou no terreno, se manda com o Vini Júnior, vai pra cima Vinícius, invadiu, a área tocou, Richarlison, Vini bate, bateu, golaço!
Com energia!
Eh oui, golaço, comme on dit en portugais. Le Brésil est entré dans cette compétition. Alors, on se posait la question hier de savoir, parce qu'il y a quand même certains gros au tapis après ce premier tour, même si ça peut être un accident ou un incident de parcours. On vous en a parlé cette semaine, notamment, par exemple, l'Argentine, mais aussi l'Allemagne. Aujourd'hui, c'était le Brésil. Il se retrouvait face à la Serbie, qui est une équipe plutôt impressionnante. Pourtant, cette Serbie, eh bien, elle n'a pas tenu le choc, on peut dire. Le Brésil a réussi, c'était en deuxième mi-temps, Cédric de Oliveira, elle a réussi ce Brésil à s'imposer face à la Serbie, deux buts de Richarlison.
Oui, ça a été compliqué pour le Brésil qui a longtemps buté sur les Serbes, assez impressionnant défensivement. Malgré les rushs de Vinicius, de Neymar, de Richarlison également. Et puis finalement, ils ont réussi à faire la différence avec leur talent, comme on s'y attendait. Le premier but, l'incursion de Neymar, le relais de Vinicius, la frappe, et puis derrière Richarlison, opportuniste. Et puis après, la magie des Brésiliens, l'extérieur de Vinicius, et puis ce but. Il se contrôle lui-même, Richarlison, il contrôle lui-même la balle, et puis derrière, il envoie une bicyclette, c'est imparable pour les Serbes, qui finalement s'inclinent 2-0. Mais bon, voilà, je crois que la soirée n'a pas été parfaite pour le Brésil, ouais. Annie.
En tout cas, ce but est salué sur les réseaux sociaux comme déjà le plus beau but de la compétition. Alors, en tout cas, ça sera sans doute un des beaux buts, mais il est spectaculaire, Timbi, ce but de Richarlison.
Ah oui, très beau but. Mais venant d'un Brésilien, on sait que c'est naturel. C'est toujours comme ça, ce sont des artistes. Mais c'est que le Brésil arrive à confirmer son statut de favori. Parce que nous savons que la Serbie, c'est une équipe compacte, très solide. Le Brésil a mis environ une heure avant de s'en sortir. Mais avec ces artistes, ces stars qu'ils ont, cette année, on peut dire que le Brésil est largement favori si nous regardons l'effectif. Et sur le terrain, on a vu, il y a de belles choses qui se sont passées, même si il y a cette inquiétude autour donc, de Neymar, c'est dont tu parlais. Mais peut-être même avec l'absence de Neymar, le Brésil pourrait s'en sortir.
En 2014, c'était pas passé, mais bon.
Mais cette année, c'est tout à fait différent.
Exactement.
Annie, tout à fait, c'est différent. Mm. Tu regardes aujourd'hui le banc du Brésil. C'est,
ah oui. c'est, il y a les Guimarães, c'est par exemple.
Voilà, mm. voilà, il y a de quoi faire, en fait.
Oui, certaines Gabriel équipes, Jesus s'est rentré sur la fin, effectivement, Anthony. Hervé, par contre, alors, il y fait allusion, Cédric, l'image qui inquiète, qui circule aussi déjà sur les réseaux sociaux, c'est cette cheville tordue. On a vu aussi Neymar en pleurs, dit-on, sur le banc, en tout à la tête dans son maillot et cette blessure peut-être, alors il a déjà de la glace sur une cheville et nous on le connaît Neymar notamment au Paris Saint-Germain depuis 5 saisons, les blessures parfois peuvent être graves. Bon,
alors là c'est un coup, hein. On s'est rendu compte que c'était une torsion sur un tacle adverse. Il va falloir voir comment ils vont pouvoir gérer ça. Le prochain match ça va peut-être être un peu compliqué de le faire jouer maintenant. Vous savez, tout est possible. Là, si ça reste qu'une entorse, s'il n'a pas été trop touché aux ligaments, parce que si les ligaments sont touchés, bah là, le problème est réglé. Hein. Donc, peut-être que lui a ressenti qu'il y avait quelque chose de grave. Et là, ce serait terrible pour le Brésil, parce qu'effectivement, il y a d'autres joueurs. Effectivement, c'est un effectif qui est énorme. Par exemple, la France se passe bien de Benzema. Mais il y a autre chose avec Neymar. On avait l'impression que c'était sa Coupe du Monde. Certainement, après, il va arrêter de porter le maillot brésilien. Il l'avait dit d'ailleurs. Hein, que, bon, en tout cas, c'est ce qu'il avait annoncé à une époque. Ce serait peut-être sa dernière compétition avec le Brésil. Parce qu'il était persuadé que c'était son année. On l'a vu faire un début de saison magnifique avec le Paris Saint-Germain. Il portait l'équipe aussi du Paris Saint-Germain. Il portait cette équipe du Brésil. Alors, d'un seul coup, quand vous êtes orphelin comme ça, des grands leaders, ben, on ne sait jamais comment les autres réagissent. Aussi bon soit-il. Donc c'est vraiment une interrogation et je pense que ce soir, la victoire, très très bien, mais il y a beaucoup de crainte dans le camp brésilien, c'est de voir la fin de Neymar sur cette Coupe du Monde.
En c'est tout un cas, peu c'est comme Sadio Mané avec le Sénégal. Neymar, il dégage quelque chose d'encore plus grand que ses qualités techniques pour une équipe du Brésil, voilà, qui sont déjà incroyables, mais c'est aussi ce qu'il dégage sur son groupe, sur ses adversaires. Et en tout cas, pense que, voilà, c'est le guide du Brésil qui...
Sa cheville droite est, on dirait, un gros œuf d'autruche. C'est même pas un œuf de pigeon. Cyril Bojico, ce Brésil, ce soir, il vous a fait quelle sensation, puisque ça sera bientôt un adversaire du Cameroun et que Vincent Aboubakar n'avait pas l'air d'avoir peur du Brésil. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce Brésil que vous avez vu ?
Il faut dire que le Brésil est une équipe qui est en construction depuis quelques années déjà. Donc, depuis la débâcle de 2014, où l'équipe a été humiliée à domicile par l'Allemagne, je crois que l'équipe s'est remise en question et a misé donc sur un relais très important. Et on a pu remarquer aujourd'hui que c'est une équipe qui a un banc de touche qui fait parler d'envie de tous les sélectionneurs. C'est-à-dire que lorsqu'on a remplacé les joueurs poste pour poste, on a vu le rythme a été maintenu. Il n'y a pas eu de ralentissement. Le rythme était là et était même encore plus battant avec plus de fraîcheur. Donc, c'est une équipe qui est partie sur les 4, 5, 6 prochaines années pour impressionner le monde entier. Et c'est ça l'esprit du football du Brésil qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas que des joueurs stars comme Neymar, mais on a des relais également qui assurent et qui relaient les défis de leur temps. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que Richarlison, on n'attendait pas là. C'est pas lui qu'on voyait Vinicius percutant, buteur, qui devait mettre en difficulté les défenses adverses, mais on a quelqu'un qui se joue là et qui met des buts incroyables parce que les gars libèrent le jeu, ils ont le temps de mettre en embarras la défense et puis il y a un gars qui vient finir le travail. C'est un travail de collectif, c'est un esprit de groupe. Et nous, au Cameroun, on devrait s'en inquiéter parce que justement, c'est une équipe à prendre très au sérieux puisque le Cameroun a perdu son match d'entrée de jeu et devra miser sur les 2 prochaines rencontres. La Serbie qu'on a vue n'est pas une mince affaire et le Brésil est un gros morceau à croquer pour nous et il faudra s'y mettre avec tous les éléments qui sont les nôtres pour son issue si on veut être de la partie en 8e de finale.
Et oui, exactement. On va passer au match, l'autre match de cette poule et qui nous intéressait. On était tous ce matin où on partit au stade Al-Janoub. Al-Janoub, excusez-moi. Les Suisses ont donc remporté leur match ce matin sur cette belle pelouse.
Jolie passe de Vargas pour Xhaka, justement. Xhaka dans l'axe, c'est bien joué pour Freuler. Freuler sur la droite, Shaqiri. Shaqiri qui va centrer, le centre. Et
l'autre aussi. il prend le ballon. Mais on doit demander avant qu'il te donne le ballon. On va demander. Si on ne donne pas le ballon, on ne demande pas le ballon, il va donner tout même.
On est au mondial, hein. Mais les gens, c'est pas la Coupe d'Afrique des Nations. Les gens doivent se prendre au sérieux. Non, ils doivent se prendre au sérieux.
Est-ce que vous restez optimiste tout de même?
Non, non, la Coupe du Monde continue. On a encore deux matchs, contre la Serbie et contre le Brésil. Ce ne sera pas facile, mais impossible n'est pas camerounais.
Ça fait 1-0, ben voilà, ben c'est facile. Mais alors les Lions, là, vous êtes restés au vestiaire, qu'est-ce qui s'est passé? 1-0 pour la Suisse.
Et oui, on y a cru. Les 45 premières minutes des Lions étaient convaincantes, peut-on dire. Elles donnaient de l'espoir, mais à la reprise, ce but de la Nati, le seul de la partie, a véritablement assommé les Camerounais. Et l'expérimenté défenseur Nicolas Nkoulou le confirmait au micro de Frédéric Suto.
Je pense qu'on n'a pas su mettre à profit nos moments forts, parce que nos moments forts, on en a eu. Il fallait juste les concrétiser, il fallait bien les finir. Je pense qu'il y avait moyen, il y avait la place. Il y avait la place. Au sortir d'un match comme celui-là, on est véritablement déçu. Mais il ne faut pas tout jeter non plus. On ne peut pas tout de suite sortir de ce match, se projeter. Je pense qu'on a perdu aujourd'hui. On va digérer ce qui a pu se passer là et faire la très bonne analyse. Parce que tout n'a pas été mauvais. On va s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien et essayer de gommer ou faire mieux ce qui a moins démarché. Et disputer le prochain match avec beaucoup, beaucoup de détermination parce qu'il va être assez décisif.
Cyril, il ne faut pas tout jeter, effectivement. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin du match, on va dire?
Alors, comme tous les supporters du Cameroun, c'est un sentiment de déception, mais en même temps aussi, je me suis dit, connaissant cette équipe-là, elle démarre souvent comme un moteur diesel. C'est vrai qu'elle n'a pas eu beaucoup de passes fructueuses lors des dernières Coupes du Monde de football, mais cette
génération. La dernière victoire remonte à très longtemps.
Remonte à 2002, face à l'Arabie Saoudite, je pense bien. Donc, je crois que 20 ans après, quand même, il faut qu'on tire des leçons. Je crois que cette défaite face à la Suisse, qui était d'ailleurs une équipe très prenable pour nous, parce qu'on sait que les autres sont extrêmement difficiles, nous amenait justement à garder l'espoir et à jouer sans complexe, sans aucune pression, parce que le Cameroun a l'habitude de, vous savez, le seul péché du Cameroun, c'est que lorsqu'on a la pression, c'est les cartons rouges. Et ça nous déstabilise. Donc, on a ce problème-là. Et on ne voulait pas donc jouer avec la pression. Mais là, on est obligé d'y aller avec la pression. Mais en même temps que quand le Cameroun est dos au mur, c'est là où il devient très dangereux. Souvenez-vous, l'Algérie nous a battus à domicile lors du match aller pour la dernière phase qui nous a mené à la Coupe du Monde. Et puis, c'est quand on est dos au mur, justement, qu'on monte, qu'on sort de ces tripes tout ce qu'on a. Et je crois que ces gars ont l'habitude, ils veulent monter quelque chose. Ils sont sous trois autorités. Le peuple camerounais qui est extrêmement exigeant, c'est 27 millions de coachs. Donc, ça, et derrière, c'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens ce soir. Il y a l'autorité du drapeau que nous servons. Et beaucoup sont des binationaux qui veulent affirmer quand même leur statut de joueurs nationaux désormais. Ils sont revenus sur les couleurs du drapeau du Cameroun. Ils sont nés en France pour la plupart, ainsi de suite. Il faut prouver quelque chose. Espérer rester longtemps contre Choupo-Moting. Il faut prouver quelque chose. Ce sera au deuxième match. Et enfin, il y a donc l'autorité du coach et c'est là où on peut remettre les choses en question. Est-ce que Rigobert Sondana a toute l'autorité sur ses joueurs? Parce qu'on avait l'impression à un moment donné que chacun faisait ce qu'il voulait et quand on a pris ce but, on a senti comme un relâchement. Mais c'est une Coupe du Monde, c'est le haut niveau et ça ne fait pas de cadeau à ceux qui jouent avec un peu de légèreté.
On va écouter l'avis des supporters camerounais à la sortie de ce match rencontré par David Finzel.
Disons que les Lions, ils ont eu énormément d'actions, ils n'ont pas pu concrétiser, mais disons que le match s'est joué, mais on espère que pour les prochains matchs, on va essayer de faire quelque chose de mieux.
Bah pour un début, pour 1-0, c'est un bon match. Après, maintenant, il y a des choses à régler. C'est un début de Coupe du Monde, c'est une pression supplémentaire, ce sont des jeunes joueurs. On a encore deux matchs à venir, donc on ne perd pas espoir.
Nous venons de vivre un excellent moment de communion entre deux pays qui a priori se valent au niveau des prestations. Je ne pense pas qu'il y a eu une équipe qui a été meilleure. La chance a souri à la Suisse aujourd'hui, mais le Cameroun n'a pas démérité. Je pense que nous avons encore deux matchs et nous sommes confiants pour la suite.
Confiant pour la suite, vous n'avez pas l'air de l'être beaucoup, Hervé Penaud.
Non, pas tellement, pour tout vous dire. Je ne suis pas très confiant. Alors, j'aime bien le discours optimiste, effectivement, des supporters camerounais. Mais enfin, à un moment, il y a des réalités. Et les réalités vous rattrapent. Et ces faits-là, premier fait, une seule victoire, évidemment, depuis 2002. Mais, il faut dire, une seule victoire depuis 1990. Ça, il ne faut, surtout pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en 90, l'image du Cameroun, qui est incroyable, la Coupe du Monde, la danse de Roger Milla vers le corner.
Il y a d'ailleurs eu
corner.
Un hommage rendu à Roger Milla aujourd'hui par Gianni Infantino, le président
très,
de la
très
FIFA,
bonne chose. Très
juste
bonne
avant
initiative.
Le match.
Très belle initiative donc pour le vieux lion Roger Milla. Mais depuis, le Cameroun en Coupe du Monde, c'est le néant. Et il faut quand même il faut être conscient de ça. C'est-à-dire qu'on peut toujours rêver en se disant bah, le prochain match, on sera meilleur. Et puis le celui d'après, contre le Brésil, finalement, on va se les mettre dans la poche. Non, c'est-à-dire que le Cameroun, en plus, a un effectif que je trouve très moyen cette année. J'ai été agréablement surpris, je vais être honnête, par leur première mi-temps, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant.
Oui.
Un Choupo-Moting qui était bien, Mbembo qui a fait du bon boulot. On sentait qu'il y avait quelque chose. Tolo, à gauche, était intéressant. Mais après, le deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire même l'impact physique qu'on connaît des Camerounais, inexistant, la volonté de révolte inexistante. Oui. Moi, je n'ai rien vu. C'est-à-dire une deuxième période où il ne s'est rien passé. Alors, il va falloir qu'il y ait des remises en question. Ça, c'est une certitude. Et puis, malheureusement, je trouve que le football camerounais n'est pas à la meilleure période de son histoire sur le plan individuel, en termes de joueurs. Hein. On a connu des générations beaucoup, beaucoup plus fortes que celle-là.
Timbi, c'est vrai que cette deuxième mi-temps par rapport à la première, on voyait par exemple le gardien Onana qui était sans cesse avancé, qui essayait de pousser ses joueurs, de leur dire mais en gros remuez-vous et allez à l'assaut du but. Ouais, et il réagissait pas ces joueurs.
Mais on le sentait que ces joueurs étaient quelque peu molles par rapport à ce qu'ils ont fait pendant la première mi-temps, mais c'est le haut niveau qui ne tolère pas. Ils ont eu environ 4 occasions franches.
La Suisse, elle n'a pas. On va, enfin,
4
on
occasions
va en
franches
après,
pendant lesquelles, Suisse... avec lesquelles ils pouvaient bien marquer. Ils ne l'ont pas fait en deuxième mi-temps. C'est vrai, ils prennent ces buts dès le début, 3 minutes après.
Début
de la deuxième mi-temps. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il y a eu un découragement, il y a eu un relâchement total. Et il y a eu autre chose. Ce sont ces changements qui ont été effectués par Rigobert Song. Parce qu'il a changé toute sa ligne d'attaque. Est-ce qu'il fallait le faire? Moi, j'ai parlé après le match avec pas mal de supporters camerounais qui n'étaient pas du tout contents de la sortie de Choupo-Moting. Et là, c'est une question,
c'est une surprise,
en fait.
Oui, ça, c'est sûr.
Est-ce qu'il fallait le mettre dehors au profit de Vincent Aboubakar qui n'a pratiquement rien vu pendant ces minutes qu'il a faites sur le terrain.
Pourtant, en associant Vincent Boubacar à Choupo-Moting, ça faisait 2 menaces pour la défense suisse, donc ça donnait plus d'opportunités à Toko Ekambi ou à quelqu'un d'autre de pouvoir faire une incursion et pouvoir créer le danger. Donc, on n'a pas trop compris ce remplacement de Rigobert Sombahana, et puis jusqu'à présent, on se pose mille et une questions sur ce remplacement qui ont déçu quand même pas mal de supporters. La preuve, quand il sortait du stade, Choupo-Moting, le public des supporters a exprimé son mécontentement. Pour ce changement-là, j'ai rarement vu un public contester un remplacement, mais celui-là, je l'ai vécu en direct.
Allez-y, Timmy.
Juste pour terminer, et il a gardé, Rigobert Song, le même système, en fait. Malgré le fait que son équipe avait du mal à progresser, avait du mal à s'affirmer sur le terrain, il n'a pas changé de système pratiquement. C'est vrai, Rigobert Song, en tant que joueur, rien à dire. C'est quelqu'un qui a quand même un cran passé à la tête de Lyon, qui a été capitaine. C'est sa première expérience, sa première grande expérience dans une compétition. Mais dans cette rencontre, quand même, il y a pas mal de choses, à mon avis, à refaire.
En tout cas, justement, c'est ce qu'a l'air de penser aussi, encore des choses à faire dans cette équipe. Le président du club Renaissance FC de Ngoumou, Alex Owana, qu'on a rencontré justement.
Chaque fois qu'on a perdu un match, on est dessus. Mais bon, c'est une compétition. Il y a 3 matchs. Vous pouvez perdre un match et puis gagner les 2 autres. Donc, en tant que Camerounais, on s'attendait à prendre déjà les 3 points aujourd'hui. Nous ne les avons pas pris. On se prépare pour le prochain match. Maintenant, il est question de revoir notre système de jeu pour le prochain match. Mais je pense que le Cameroun est capable de... Vous savez, le Cameroun, c'est un pays qui a la théorie du danger. Et nous, on va pratiquer ça.
Et ça sera contre la Serbie.
Et ce sera contre la Serbie, que le Brésil aussi se prépare.
Alors, changer quelque chose, qu'est-ce qu'il faudrait changer, Hervé?
Alors déjà, peut-être effectivement associer 2 joueurs devant, mais le problème, c'est un problème d'équilibre d'équipe. C'est de savoir comment votre équipe ne peut pas être trop déséquilibrée. La Serbie, c'est une très très bonne équipe avec des grands anciens. Donc si vous décidez par exemple d'enlever un milieu, ce qui est une possibilité, pour ajouter un attaquant supplémentaire, vous pouvez aussi être en grosse difficulté. Parce que la défense ne montre pas quand même des signes de solidité exceptionnels. Donc tout ça, il va falloir arriver à trouver un bon panachage. C'est pour ça que moi, je mettais un peu en avant le niveau global des joueurs. Et comme collectivement, parce que Song vient d'arriver à la tête de l'équipe, ça fait quelques mois. Mm-hmm. Donc pour l'instant, collectivement, il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas se mentir. On n'a pas vu quelque chose de particulier. Et ben, il faut travailler sur le long terme, il faut arriver à conserver tous ces joueurs, à faire un petit peu plus. Et heureusement que vous avez un Onana qui est toujours là, présent, et qui est brillant dans la grande tradition des gardiens des Lions. Mais ça va être dur. Moi, c'est pour ça que je suis beaucoup moins optimiste. J'aimerais et j'espère me tromper, surtout. J'espère me tromper. Je suis beaucoup moins optimiste que les supporters.
Cyril Bojico, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?
Alors, je pense qu'il faut que Erigobert Sombana puisse poser toute son autorité, parce qu'il donne l'impression qu'il ne maîtrise pas son équipe. D'ailleurs, lorsqu'il publie la liste des joueurs, il a montré que finalement, il ne les connaissait pas tous, du moins véritablement, jusqu'à prononcer difficilement les noms de certains joueurs. Ça pose un problème de communication, donc de transmission de signification. Alors, lorsqu'un manager ne peut pas transmettre son intention ou sa signification, il ne peut donc pas animer le joueur, parce que du banc touche, il anime le joueur, il anime le jeu. Donc ça pose un problème. On a vu également durant tout le match, un peu comme s'il regardait un spectateur, très peu de mouvements qui montaient, qui voulaient replacer un tel joueur ou un tel poste, mis à part Nautolo, à un moment donné, Faye qui ont pu à un moment donné changer de position, mais on n'a pas vu ça. Mais on a vu également de temps en temps l'agent venir lui souffler à l'oreille, et puis on se met à dire, mais finalement, qui est le patron de l'équipe? Et ça pose ça. Et on connaît les Camerounais. Tant qu'il n'y a pas un patron qui a des coups de franc, chacun fait ce qu'il veut.
Bon, c'est peut-être le président qui a les coups des franches, Tim Bitt.
Oui, mais il est hyper puissant. Il faut dire que sa surexposition médiatique, notamment Samuel Etoffis, fait en sorte que finalement, son hyper puissance peut annihiler tous les efforts des autres.
C'est un souci.
Il faut savoir qu'il
est extrêmement présent à l'entraînement.
C'est un hyper président. Il est très fort, il est très puissant, il est très présent, omniprésent partout.
On sait qu'il connaît bien. Mais...
c'est un passionné du ballon, c'est normal. Et l'équipe nationale, lorsqu'il regarde les joueurs, oui, il se voit, il était là quoi, il y a 20 ans. Donc, il se voit à cet endroit-là et il a fait des grandes choses.
Avec un petit régime, quelques tours de terrain.
non, sauf
ça, il pourrait être encore là.
Il ne peut plus jouer. Mais il faut aussi une histoire de cohésion de groupe, parce qu'on a une sélection, mais est-ce qu'on a une équipe? Regardez les 5 DMs de l'Inter du Cameroun. Vous avez vu, c'est 5 équipes différentes qu'on a eu alignées. Dans une Coupe du Monde, ça ne pardonne pas, parce que les joueurs se découvrent. Même moi, découvre les autres, ils n'ont pas cet entente-là, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et puis, ça fait que le bloc équipe, on ne parvient pas à l'avoir. Au niveau des attaques placées, on n'a pas réussi les attaques placées. Donc, ça pose un problème de cohésion, mais finalement, qui est celui qui est le garant de la cohésion de l'équipe? Là, il faut se poser la question. Mais face à la Serbie qu'on a vue aujourd'hui, qui est très organisée et qui est très... certes, elle a bien joué, elle a eu le syndrome du Sénégal. T'as dit, je joue bien, mais à la fin, je perds la partie. Mais il faut dire que face au Cameroun, la Serbie, ce sera une Serbie telle qu'on a vue aujourd'hui qui nous posera beaucoup de problèmes si on ne se ressaisit pas.
Timbi, vous avez cette opinion?
Ah oui, l'espoir, vraiment, il est très mince. Il est très mince. Parce qu'en regardant cet effectif...
Le prochain match est déjà capital.
Il est capital et on va finir par le Brésil.
C'est un deuxième sur trois, mais en même temps...
C'est que sur ces trois, savoir le Brésil, la Suisse et la Serbie, laquelle de ces trois équipes était prenable? Peut-être on pensait à la Suisse, en fait. Mm-hmm. C'est la Suisse qui pourrait être jouable. Maintenant, si face à la Suisse, on fait une très belle première période, on ne parvient pas à marquer. Aujourd'hui, est-ce que moralement, ces joueurs ne sont pas affectés? Comment ils vont aborder cette...
Vous avez l'air d'avoir reçu un coup sur la tête et en plus d'être fatigué en fin de match. En tout cas, cette équipe de Suisse a tenu son rang, solide, réaliste, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Les supporters, ils étaient contents et toujours au micro de David Finzel.
Ben, on est plutôt content, oui. Au vu de la première mi-temps où on a été un petit peu dominé, je crois qu'on peut être, être satisfait de ce 1-0, oui, tout à fait.
Vous avez eu chaud ou pas?
Non, pas tant que ça. Assez solide, je trouve. Défensivement, on a bien tenu. Et c'était pas trop de cases dans le match de côté, mais on a cherché une bonne victoire, je trouve. Ouais.
Alors vous êtes confiant pour la suite?
Confiant, je sais pas, parce que le Brésil, forcément, ça va être très dur. Et la Serbie, moi, personnellement, je trouve que c'est une très 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 bonne équipe aussi. Donc on va devoir quand même se battre, mais je pense qu'on devrait réussir à sortir du groupe.
Ouais. Depuis que vous avez sorti la France à l'Euro et les champions du monde,
on n'a plus peur de grand-chose. Voilà, ouais. Une fois qu'on sort la France, on est confiant pour tout le reste. Donc,
allez la Nati alors?
Allez hop, Schweiz, hein.
Confiant pour la suite. Bon, ben, la Suisse, elle, sera confrontée donc au Brésil pendant que le Cameroun sera confronté à la Serbie. Une scène en tout cas sympathique qui n'a pas échappé à nos micros, c'est cette scène où on se souvient tous du scénario de l'élimination, ou plutôt de la qualification du Cameroun aux dépens de l'Algérie. Écoutez ce supporter panafricain.
Africa. Vous êtes un supporter algérien et vous êtes venu encourager le Cameroun?
L'Afrique. Oui, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
On est des Africains.
On est des Africains.
Merci. C'est quoi, c'est le football?
Merci, mon frère.
si on a des équipes africaines qui progressent, on nous donnera plus d'équipes.
Vive l'Afrique alors.
Yes, vive l'Afrique. We love Africa.
Merci.
Être encouragé par un Algérien du côté de Doha, c'est quand même pas mal.
Oui, encore que le Cameroun, on a également fait le reportage, à la fois on fait le reportage là-dessus, à la fois Radio et Télévision. Le stade était acquis à la cause du Cameroun. On a raté une très belle occasion de rendre tout le monde heureux.
Il y avait de la musique.
Et même les Sri Lankais, les Indiens, même les Anglais, même les Belges qu'on a rencontrés à bord le drapeau du Cameroun. Alors je ne sais pas trop pourquoi, je pensais qu'il devait y avoir une solidarité européenne, mais non. Ils voulaient le Cameroun peut-être parce que c'était le petit pousset, mais la sympathie pour le plus petit. Mais le Cameroun a raté l'occasion de faire vibrer le stade. Et il fallait voir, justement, quand le but a été marqué, le stade n'a pas jubilé. C'était les carrés des Suisses. Donc c'était. Moi, j'ai ce regret-là parce que je dis on a manqué l'occasion de faire donner de la joie à beaucoup de gens. Le Cameroun aujourd'hui était supporté par plusieurs nationalités et c'était l'occasion de quand même de montrer quelque chose parce qu'il y a très longtemps, le Cameroun n'a plus vibré, n'a fait vibrer les stades à la Coupe du Monde et on est devenu un pays de grands joueurs mais une petite sélection à l'échelle mondiale et ça commence à nous poser des problèmes.
Hervé, on se souvient des polémiques et tout ça, là. On voit que bon, devant l'intérêt du football...
J'en suis pas si sûr, oui, pour tout vous dire, parce que j'étais en zone mixte et il y avait un journaliste algérien qui était là. Il a posé la question à un Suisse. Il a dit, vous avez vu que les Algériens, il y avait des Algériens qui vous supportaient. Alors lui, étant très loin de la polémique entre Cameroun et Algérie, il dit mais ah bon, les Algériens étaient derrière nous. Il dit bah, vous étiez content. Ben oui, mais j'ai pas trop fait attention. Oui. Donc je crois effectivement
nous,
les Algériens étaient bons. Il y en a beaucoup qui étaient quand même plutôt pour la Suisse.
Vous promenez au souk Wakif là où les supporters se rassemblent. Les Algériens, ils sont là, ils sont présents, ils soutiennent beaucoup les équipes du Maghreb. Voilà. Mais il y a quand même toujours un petit mot pour le Cameroun qui n'est pas très agréable parce qu'on sent que la pilule elle a du mal à passer. Donc voilà, c'était plutôt dans ce sens-là.
Alors c'était une exception, mais tant pis.
Mais tant mieux, il faut la réunion.
Ouais, exactement.
Tous les pays d'Afrique.
Exactement. On continue alors parce qu'il y a eu un autre match. Et là, c'était votre tour, Cédric De Oliveira, d'être dans le stade.
Cristiano Ronaldo face à Tizigi, il prend son élan, le Portugais Cristiano Ronaldo, et c'est dedans. Écoutez derrière le sud, le Ghana avec le ballon, Ayou, l'égalisation d'André Ayou, et oui voilà, il fallait insister pour le Ghana qui va aller, André Ayou se taper le point.
Cédric, moi je veux que vous le fassiez en direct là. Ce Cristiano Ronaldo. Alors le Portugal de CR7 donc qui a inscrit le premier but et son premier but dans cette compétition, on va y revenir. En tout cas, un des trois de la victoire des Portugais sur les Black Stars. Mais que le Ghana peut s'en vouloir. L'équipe a résisté, l'équipe a marqué les deux premiers buts africains de cette compétition et je crois que ça c'est très important parce que c'était le cinquième match et on guettait les buts. Le Ghana a finalement perdu mais elles doivent s'en vouloir, Cédric, ces Black Stars, elles ont un peu raté le coche.
Oui, alors il y a eu quand même une première heure assez compliquée. On a senti que le Ghana était dans une position attentiste parce que le Portugal, avec sa qualité technique, a confisqué le ballon, s'est procuré les meilleures occasions, notamment par Cristiano Ronaldo, même si le Portugal n'était pas très dangereux. Mais après...
Le pénalty a fait surtout, un peu parler, mais bon.
Le pénalty,
on peut
se mettre à la place des Ghanéens. Effectivement, il est assez frustrant parce que Cristiano Ronaldo joue parfaitement le coup. Il touche légèrement le ballon avant Salisu et finalement, bon, il y a pénalty logique. La vidéo n'a même pas été appelée. Donc voilà, il y a pénalty. Et derrière, ce qui était assez surprenant, c'est de voir que le Ghana, c'est à ce moment-là que le Ghana s'est un petit peu réveillé. Il y a eu l'égalisation d'André Ayou. Et derrière, c'est surtout les erreurs individuelles, malheureusement, du Ghana. C'est un peu comme le match du Sénégal face aux Pays-Bas. Il y a eu des erreurs individuelles, notamment en défense, Salisu encore. Et voilà, il y a eu les... Il ne faut pas laisser d'espace à João Félix, à Rafael Leão. Ouais. Et derrière, c'est trop compliqué pour le Ghana, qui quand même a montré de belles choses, mais c'est trop peu face à une équipe comme le Portugal.
Hervé, le Ghana a montré beaucoup de belles choses. Et en même temps, et on écoutait sûrement, on était beaucoup à écouter Cédric qui était dans le stade sur RFI. Il y a eu ces changements à un moment bizarre, parce que c'est un moment où le Ghana vient juste d'égaliser. André Ayou est sorti, c'est quand même un des meilleurs. Il y a aussi...
Il ne voit pas d'ailleurs le but de Félix.
Exactement, c'est ce que vous décriviez. Et
Kudus
qui sort aussi. Et alors là, on a eu l'impression, que, alors même s'ils marquent un deuxième but après, mais on a eu l'impression que ça les a déséquilibrés. D'ailleurs, ils encaissent le troisième.
André Ayou revient d'une blessure il y a quelques temps. Alors peut-être qu'il a qu'une heure ou une heure cinq, dix dans les pattes. C'est un petit peu pour ça, je pense, qu'il l'a sorti, parce qu'on sait que c'est un leader absolu. La preuve, il met un nouveau but dans une Coupe du Monde, ce qui est assez monstrueux. Très surpris pour Mohamed Kudus, qui était celui qui faisait les différences. Il a 20 ans ou 21 ans, 22 ans. Je veux dire, c'est un enfant, il est capable de jouer une heure et demie. Quand vous êtes en difficulté face à une équipe du Portugal, logiquement, vous pouvez faire. Vous le gardez, un joueur comme ça, qui est capable à tout moment de marquer des buts. Il l'a montré avec l'Ajax en Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'était assez surprenant. Il y a eu certains choix assez surprenants. Mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus tenté grand-chose pendant très longtemps, les Ghanéens, comme s'il fallait attendre ce déclic pour se réveiller. Et malheureusement, le réveil, quand le réveil, c'est un but, ça devient plus ennuyeux. Mais sur la dynamique de l'égalisation d'André Ayou, là, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, pour le Ghana, je vais être un petit peu moins pessimiste. Je me dis qu'ils ont attaqué quand même par le sommet meilleure catégorie. Ça va se réduire un petit peu sur les deux prochains matchs. Ils ont quand même la capacité, à mon avis, de faire quelque chose. Il ne faut jamais oublier que c'est une équipe qui déçoit assez rarement en Coupe du Monde. On se souvient du quart de finale, la faillite demi-finale, sans la main de Suarez.
Bien sûr.
Il y a 4 ans plus tard, je ne vais pas utiliser le terme, disons que ça s'est très mal passé avec les autorités, avec des problèmes de primes terribles. Et ils ont quand même réussi à sortir des matchs qui étaient encore costauds, même s'ils sont éliminés au premier tour. Et là, encore une fois, ils reviennent dans des conditions un peu compliquées aussi. Mm-hmm. Gardiens tous blessés une semaine avant la compétition, oui. Des nouveaux joueurs qu'on intègre, qui n'ont jamais joué les uns avec les autres, et ils sont encore là au rendez-vous. Donc il y a un mental de guerrier un peu du côté des Ghanéens, lié à peut-être André Ayou et tous ces gens-là.
Juste qui fait plus que... entreprenant. Voilà.
Voilà. Maintenant, il va falloir en faire un peu plus pour les prochains matchs.
Timbi, vous aussi sur le Ghana, est-ce que vous êtes surpris finalement? C'est peut-être l'équipe qui a le plus osé, je dirais, des cinq équipes africaines.
Ah oui, mais ce n'est pas surprenant, même si c'est une équipe en reconstruction,
ah oui,
parce que si on la regarde,
avec
il y a pas mal de nouveaux visages qui sont là, il y a Key Williams, il y a également le sélectionneur qui est là récemment. D'ailleurs, cette année, la particularité de toutes ces équipes africaines, c'est qu'elles sont entraînées par des entraîneurs
locaux
des entraîneurs africains. Et vu tout ce qui est en train de se passer, c'est vrai, elles étaient très mal loties pendant le tirage. Là, on se demande comment tout ça va finir. Est-ce que cette expérience va se prolonger? Et pour le Ghana, ce n'est pas étonnant. Ce qui serait quelque peu inquiétant, c'est parce que il y a quand même l'Uruguay dans cette poule. Et généralement, les équipes africaines ont du mal à s'en sortir face aux Sud-Américains. On se rappelle de tout ce qui...
Ils leur couperont les mains avant de rentrer sur le terrain, déjà, première chose.
Tout petit esprit de revanche.
Donc, c'est ultra compliqué. Même s'ils ont marqué 2 buts, ils ont des guerriers, ils ont des joueurs techniciens, des artistes qui sont sur le terrain. Peut-être avec un peu de motivation, c'est possible que ça passe, même si ça sera vraiment compliqué. Ça ne sera pas facile. Ce n'est pas gagné d'avance.
Alors, le Ghana, effectivement, après, il y a l'Uruguay et la Corée du Sud qui se sont séparés sur un match nul. On a croisé des supporters uruguayens qui étaient ultra déçus, qui ont pensé que l'Uruguay avait mal joué. Donc, effectivement, le Ghana, l'équipe africaine, qu'on avait du mal à évaluer avant la compétition, c'est peut-être celle qui a une carte à jouer aussi dans son groupe, Cyril.
Oui, il faut préciser que le Ghana, même si le Ghana fait ce soir une mauvaise sortie, cette équipe-là nous a montré quand même qu'elle est l'assurance d'une belle prestation à cette Coupe du Monde de football. Et puis, on peut compter sur elle, le continent africain. D'ailleurs, elle a osé mettre deux buts. C'est quand même le Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est pas une mince affaire. C'est une équipe qui est encore l'avant-dernière Coupe européenne. Elle était championne devant la France en la battant chez elle. Donc, elle est capable de tout. C'est une grande nation de football avec un Cristiano vieillissant qui a marqué, un Ayou vieillissant également qui a marqué et des jeunes promesses qui sont là derrière. Mais je pense que le Ghana aura encore une belle revanche face à l'Uruguay. Donc c'est très important. Et la Corée du Sud que j'ai vue aujourd'hui, elle est prenable pour le Ghana. Donc le Ghana, pour nous Africains, le Ghana est une chance de qualification pour le second tour pour l'Afrique. Et donc elle montre des belles choses. Elle a un bel collectif, elle a une bonne équipe, elle a un bon mental comme on l'a vu, et elle est portée sur l'avant, on a vu, elle ose, elle prend des risques. Contrairement au Cameroun aujourd'hui, c'est une équipe qui a pris beaucoup d'initiatives, qui a pris beaucoup de risques, et c'est très important pour la beauté du jeu et pour la Coupe du Monde aussi.
Et c'était sûrement pas facile face à ce Portugal, bien sûr. Et alors, celui qui a marqué le premier but, c'était sur pénalty, mais on le dit toujours, les pénaltys, il faut en plus les marquer, je crois que Lewandowski le sait. Cristiano Ronaldo présent avec la sélection, même si donc João Félix et Raphaël Léon ont marqué. Il y avait des supporters qui n'ont vu que lui, et vous allez nous dire pourquoi ensuite.
Il a joué très bien, mais c'est une chose que c'est très important, c'est qu'il garde deux ou trois joueurs à redor de lui. Alors, c'est très important d'avoir Cristiano. Ce n'est pas pour les goals, c'est plus important pour jouer pour l'équipe. Il est un joueur, pour moi, c'est le meilleur du monde. Et donc, il avait une réputation incroyable. Vous avez vu que le stadium, il est accompli. Et je pense que Portugal-Ghana, c'est un jeu qui n'est pas très important. Et tous les stadiums ont été accomplis.
À presque 38 ans, Cédric, Cristiano Ronaldo, homme du match.
Oui, homme du match, c'était déjà un match particulier pour lui, parce que les dernières semaines, un peu aussi à cause de lui quand même,
étaient
compliquées. Il était visiblement très ému, notamment pendant l'hymne. C'est pas banal de le voir dans cet état. Il était très ému pendant l'hymne portugais. C'était un match important, il avait beaucoup à prouver. Évidemment, il n'y avait pas trop de doutes sur l'identité du tireur de pénalty. Il a marqué.
Un gros scandale.
Il a marqué. Non, mais et après, c'est vrai qu'on a beaucoup, on s'est beaucoup dit ces dernières semaines, est-ce que ça se passe bien dans la sélection portugaise? Il n'a pas arrêté de répéter que tout le monde était uni. Et c'est vrai que quand il a marqué, tout le monde s'est jeté sur lui. Il y avait, en tout cas, en apparence, une belle unité chez les Portugais. Et puis, Cristiano Ronaldo, quand même, avec ce pénalty, on va le souligner, c'est le premier joueur à marquer dans 5 Coupes du Monde différentes. C'était jamais arrivé. Donc, un but en 2006, un autre en 2010, un autre en 2014, 4 en Russie. Et puis, un nouveau but, ça fait 8 pour lui. Alors, c'est quand même pas le meilleur buteur de la sélection portugaise en histoire de la Coupe du Monde. C'est Eusebio. Il en reste un à marquer. Donc, peut-être que ça viendra un peu plus tard au Qatar.
Il y a des chances. En tout cas, on avait vraiment l'impression que c'était la Cristiano Mania dans les supporters.
Incroyable.
On les a vus notamment partir en colonne comme ça, faire le cri que vous avez si bien reproduit tout à l'heure. On entendait ça dans le métro, on entendait ça dans les couloirs, dans
ils
le wagon.
Ils attendaient que ça, ils l'ont même fait avec lui. Donc
c'était incroyable. Il est sorti avant la fin du match, il y a eu une ovation. Et puis, on a rencontré notamment dans le métro un Pakistanais qui venait donc du Pakistan pour voir Cristiano Ronaldo. Il allait au stade. Alors évidemment, il aime le foot et tout.
Après, ici, au Qatar, il y a beaucoup quand même de Pakistanais, de Bangladais, d'Indiens, mais là, il venait de Saoudiens. Qui viennent après, en termes de mondialisation du football, ces supporters-là viennent supporter les grands joueurs et les grandes équipes, et notamment Cristiano Ronaldo.
En tout cas, justement, par ici, on se retrouve autour de la fête du football, on se retrouve autour des grands joueurs, et écoutez, du coup, les musiques aussi se croisent.
Algernon Stadium. Please proceed to the spectators' entrance. Please proceed to the spectators' entrance. Pointed by a fellow Portuguese.
Radio Foot International.
Thank you and enjoy the match.
En direct de Doha.
On a l'impression, justement, vous le disiez, qu'il y a beaucoup de Pakistanais, de gens qui viennent. On a l'impression peut-être, Hervé, qu'il y a des nouvelles nations de supporters qui sont associées à la Coupe du Monde parce que plus près, finalement, de chez eux.
D'où l'intérêt d'avoir fait ça à la Coupe du Monde ici. Hein. Et alors ici, ou peut-être dans plusieurs pays, alors on peut en discuter, on aurait pu ajouter d'autres pays du Golfe ou du Moyen-Orient, mais c'est important, c'est intéressant. Et c'est vrai que la FIFA a raison de se dire qu'à un moment, il faut s'ouvrir au monde. Parce que si on reste toujours chez les mêmes, au bout d'un moment, le monde du football se sclérose. Donc c'est très bien de voir des Pakistanais, des gens du Bangladesh, etc. etc. Ça a un souffle nouveau. Alors bien sûr, il y a un peu moins de monde parce qu'il y a des supporters qui vont se déplacer en moins grand nombre, notamment d'Europe, avec toutes les polémiques que la Coupe du Monde a pu engendrer. Mais n'empêche que, vous savez, le monde est grand. Hein. Le monde ne se limite pas simplement à quelques pays occidentaux. Et il existe aussi ici. Donc c'est très très bien, puisque des grands joueurs puissent venir ici et puis ça porter un peu la parole du ballon.
Timbi, vous aussi, vous avez cette sensation de rencontrer des gens peut-être de nations qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une Coupe du Monde.
Bien sûr. Et cela est bénéfique, par exemple, à certaines équipes africaines. Si nous regardons les pays maghrébins, que ce soit la Tunisie ou le Maroc, c'est comme s'ils jouent à domicile. parce qu'il y a une forte communauté de leur pays qui se trouve ici, donc au Qatar. Cette ouverture de la FIFA, c'est là l'intérêt, en fait. Même l'augmentation du nombre de pays qui vont désormais participer au mondial, ça participe. Là, c'est là l'intérêt. Et au Qatar, ici, vu que le nombre d'habitants qui s'est trouvé ici, les Qataris ne sont pas nombreux, donc on a beaucoup d'étrangers. Même dans la rue, si on prête attention, on rencontre pas mal de Pakistanais, voilà, des pays.
Il y a 90% voisins, d'étrangers, de toute façon.
Exactement, voilà, ouais, qui sont là et qui font des travaux. Donc, c'est
Cyril, vous aussi, vous avez cette sensation ?
Oui, bien sûr, on a vu des belles choses aujourd'hui. C'était un brassage de cultures, des personnes du monde entier. Et justement, ça fait qu'on a des fortes communautés de supporters, mais qui ne sont pas des origines des pays participants. Bon, on a vu, pour le match du Cameroun aujourd'hui, j'ai vu, je veux dire, les Sri Lankais, les Indiens qui étaient là, et qui supportaient le Cameroun. Tout comme j'ai vu également le Ghana, lors du match du Ghana, j'ai vu des supporters qui allaient en colonne, qui n'étaient pas de la peau noire, mais qui allaient supporter le Ghana, parce qu'ils disaient que nos ancêtres viennent d'Afrique, notamment des j'ai vu quelques personnes qui venaient également du Pakistan aussi, qui disaient, mais nous, on a une histoire avec l'Afrique, ma peau est noire, de suite. Donc, c'est très important de voir ça, c'est une belle ambiance. Et puis, ça nous amène à comprendre finalement que ce monde est formidable parce que le football rassemble les générations, rassemble les continents et rassemble les peuples. Plus qu'un sport, c'est aussi un moyen d'unifier les peuples. Et parce que vous voyez, par exemple, lorsque la Tunisie joue, vous allez voir que tous les Arabes sont derrière la Tunisie. Même chose pour le Maroc. Et d'ailleurs, ils avaient dit c'est l'Arabe unifié, c'est ce qu'ils ont eu à dire. Parce qu'on a pu voir ça aujourd'hui, ils ont porté la Tunisie carrément dans un stade pour qu'il arrive à faire son match nul, mais également pour d'autres communautés, pour d'autres équipes également, il y a des pays qui sont rattachés.
Eh bien, peut-être que demain, tous ces gens seront derrière le Sénégal pour encourager le Sénégal. Deuxième match et une opportunité énorme pour les Lions de la Déranga donc de s'imposer parce que demain ils joueront contre le Qatar. C'est quand même l'équipe du pays hôte, certes, mais c'est aussi l'équipe sans doute la plus faible, en tout cas qu'on ait vue sur le premier tour. Aliou Cissé, le sélectionneur, a bien conscience du défi au micro d'Olivier Pron.
Une défaite, ça arrive. Le football, c'est des défaites. Le football, c'est des matchs nuls. Le football aussi, c'est des victoires. Effectivement, depuis que je suis là, on a eu la chance de débuter toutes nos compétitions en gagnant le premier match. Mais en Russie, on a gagné notre premier match et la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, je peux comprendre que certains doutent de nous, mais je crois que ce qui est important, c'est que l'ensemble des groupes que je dirige, des joueurs que je dirige aujourd'hui, ont envie de continuer à écrire leur histoire, l'écrire pour nos supporters sénégalais. Et c'est l'occasion pour moi de leur lancer un appel, de continuer à croire en cette équipe-là. Voilà, nous jouons pour eux et on a vraiment l'intention de leur faire plaisir et surtout de leur rendre fiers comme on l'a toujours fait.
Timbi, vous qui êtes à Dakar et qui suivez cette équipe à la loupe, comment voyez-vous le match de demain ?
Bon, on espère bien que le Sénégal va gagner, c'est ce que nous formulons, même si c'est la rencontre des équipes qui ont été battues lors de la première donc, journée. Et vu tout ce qui se passe au sein de cette équipe du Sénégal, c'est comme ce qui s'est passé aujourd'hui avec le Cameroun. Maintenant, avec des joueurs blessés, le problème du Sénégal, c'est au niveau de l'attaque. Sadio Mané n'est pas là, il y a une autre blessure qui s'est ajoutée avec Kouyaté, donc le milieu est affecté. Est-ce qu'on verra ces 11 de départ que Aliou Cissé va nous proposer demain? Mais l'inquiétude, elle est là. On se demande si Ismaïla Sarr pourra enfin porter cette équipe et nous faire oublier l'absence de Sadio Mané. Toute la question, c'est là. Ce n'est pas une question de jeu, ce n'est pas une question de plan au niveau du milieu. Le problème, c'est au niveau de l'attaque. On attend la solution qu'Aliou Cissé va nous proposer. Et sur le banc, on ne sait pas également s'il y a ces joueurs capables de remplacer Sadio Mané. On a regardé il y a l'autre fois. Ça n'a pas donné comme il le faut, peut-être Famara Tchédjou, mais on se demande franchement comment solutionner cette situation.
Hervé, c'est le problème du Sénégal, c'est être buteur.
Oui, c'est le buteur. Et puis surtout, je trouve que c'est le jeu. Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de commentaires positifs. Moi, je n'ai pas été très, très emballé par leur premier match. Loin de là, d'ailleurs. Parce que je trouve que collectivement, il y a manqué de beaucoup de choses. Alors physiquement, ils sont impressionnants. Ils sont capables de courses, de recourses, de pressing. C'est vrai que c'est costaud. Mais moi, j'attends un peu plus du Sénégal. On parle quand même du champion d'Afrique en titre. Une équipe qui vient avec des ambitions ici. Donc ça, c'est très important. Ils n'ont pas à avoir peur ni des Pays-Bas, ni des autres. Bon, le premier match est terminé. Le Qatar, c'est quand même largement dans leur corde. Franchement, ce serait une immense déception s'ils ne s'imposaient pas contre le Qatar, avec ou sans Sadio Mané. Il y a une vie après Sadio Mané, il faut le prouver dès demain.
Cédric ?
Ben oui, je suis assez d'accord avec Hervé. C'est quand même un peu dommage cette fin de match. Je parlais de celle du Ghana, mais celle du Sénégal, c'est un peu la même chose face aux Pays-Bas. Moi, je n'ai pas trouvé transcendant non plus sur ce vrai match. Le match nul aurait été équitable, mais ils ont fait encore une fois trop d'erreurs, notamment défensivement. Et l'inconnu, c'est de savoir si, notamment les tauliers, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, vont pouvoir aussi répondre présent. Parce que lors du premier match, ça n'a pas vraiment été le cas. Alors demain, ils ont une nouvelle occasion face au Qatar.
Comment les lions indomptables regardent les lions de la Teranga ?
En frère. En frère. Mais moi, je dirais que, en fait, le Sénégal n'avait pas eu l'occasion de jouer sans Mané depuis longtemps. Et la première fois que ça s'est produit, c'était face à la Hollande. Et puis, on a vu ce que ça a pu donner, la dépendance à Sadio Mané. Et je crois qu'ils ont eu le temps de regarder le match et de comprendre le mécanisme qu'il fallait mettre en place. Parce que le coaching d'Alou Cissé était forcément lié à Sadio Mané. Il fallait envoyer tout débat en sa direction pour qu'il crée le danger. Alors, maintenant qu'il n'est pas là, on va apprendre à jouer sans lui. Et je vous assure que demain, ce sera un autre Sénégal que vous allez voir. Je parie que le Sénégal va l'emporter sur un score très confortable d'ailleurs, et ce sera ainsi pour la suite des compétitions, parce que c'est un joueur qui a, c'est une équipe qui a des joueurs qui sont très bons individuellement. Maintenant, Sadio Mané étant le leader charismatique qui porte l'équipe des plus là, ben, on va apprendre à faire sans lui.
Il y a d'autres attaquants, il y a Bamba Dieng, il y a, alors on parlait d'Ismaïl Assar, il y a aussi
Crépin Diatta, qui a été très décevant. Tout le monde attend un petit peu. Alors, il y a Nicolas Jackson qui est rentré pour sa première, qui est un joueur qui est de Villarreal. Tout le monde, je sais, au pays, attend un petit peu Ndiaye, Eliman Ndiaye, parce qu'on se dit, est-ce qu'il est capable d'être un peu, de reprendre le flambeau du joueur technique, capable de faire des différences ? Il y a du monde, il y a quand même du monde dans cette équipe du Sénégal. C'est pour ça qu'on y croit, et c'est pour ça qu'il faut être un petit peu dur avec les gens qu'on aime bien, de temps en temps. Voilà.
Oui, ils portent les espoirs de l'Afrique. Surtout, ils sont arrivés comme champions d'Afrique et c'est vrai qu'ils ont été très attendus. Bon, les Pays-Bas étaient peut-être l'équipe la plus difficile. Après, il y aura l'Équateur.
Qui est aussi prenable pour le Sénégal.
Sans doute.
Il faut déjà gagner demain.
Voilà, demain. Je vois le Sénégal au deuxième tour de cette compétition. Mm. Oui, bien sûr, les deux prochains matchs seront prenables pour le Sénégal, qui a un bon collectif, des gars qui jouent ensemble depuis très longtemps.
Nous le voulons
et
bien.
Et qui vont passer au scanner le match contre la Hollande et ils vont apprendre beaucoup de choses. Et ils apprennent très facilement.
Eh bien, espérons que les Lions offriront demain une première victoire africaine en territoire.
Pour sortir les crocs demain.
On avait calculé, il y a eu 2 points de prix sur 15 possibles. Les deux matchs nuls, en fait, équipes africaines, jusqu'à présent, du Maroc et de la Tunisie.
Deux points de but.
Voilà. Bon, faut continuer.
Allez, on fera mieux sur la deuxième
journée. Remonter les statistiques. Demain, il y aura aussi une rencontre, une affiche anglo-saxonne entre l'Angleterre et les États-Unis. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Cyril Bogico de Radio Balafond, donc cette radio de Douala.
Oui, je vous en prie.
Merci beaucoup. Merci à tous et à demain.